bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Et puis pour un sociologue, venir à Épinal, c'est toujours un petit peu émouvant. On pense à Durkheim. Alors, si je me suis intéressé au suicide, si je n'étais pas, entre guillemets, programmé pour m'intéresser au suicide, c'est avant tout, je m'intéresse au suicide en tant que soignant, quand on est jeune interne et qu'on doit passer la barrière, qu'on doit aller dans un cabinet, on se pose des questions difficiles. Est-ce que je serais capable de prendre en charge les problèmes urgents? Et comme on est anxieux, inquiet, ben on se dit, on va faire un début d'urgence, on va chercher le savoir. Et puis, en cherchant le savoir, eh ben on aura la façon de mieux prendre en charge et d'être un bon médecin parce qu'on a envie d'appliquer les bonnes pratiques. Et puis, dans ce DU d'urgence, à la fin, on doit faire un mémoire. Et le suicide s'est imposé comme sujet. Je n'ai pas réfléchi. Et pourquoi le suicide s'est imposé comme sujet? Parce que c'était celui qui me mettait le plus en porte-à-faux avec l'image que je me faisais du médecin que je voulais être et ce que je faisais concrètement sur le terrain. J'avais l'idée, vous voyez, sociologue, donc j'avais l'idée un peu d'être un médecin humaniste, à l'écoute, accompagnant. Et puis j'ai le souvenir d'une nuit noire, d'avoir eu une TS qui arrive à 11h, une TS qui arrive à minuit, une à 2h et une à 3h. Et j'ai le souvenir d'espèces de cercles, on passait d'une TS à une autre. Et puis, et c'est pour ça que c'était important, j'étais un peu en colère, stigmatisé. Je me dis, il est 3h du matin, il ne pourrait pas venir pour des vrais problèmes, parce que si vous connaissez un peu les urgences, le centre, c'est la réa. Hein, et à côté, il y a les box, mais le central, on veut des vrais problèmes. On se dit, ils auraient pu venir à 10h du matin, à 3h du matin, on est fatigué. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Comment moi, qui veux être un médecin humaniste, je peux stigmatiser un suicidant? C'est impossible. Alors, comme j'avais une deuxième casquette, j'étais en train de faire mes études de sociologie à côté, j'ai pris mon microphone, j'ai été interviewé d'autres personnes, d'autres soignants, pour voir si moi, j'étais vraiment un médecin indigne, monstrueux, peut-être que je pensais. Et ben, j'ai compris que mes collègues étaient dans la même difficulté. Alors, soulagement, parce que je n'étais pas forcément si monstrueux que ça. Et en même temps, je me suis posé des questions. Est-ce que les urgences ont des structures adaptées à prendre en charge les suicidants? Est-ce qu'il faudrait des structures spécifiques? De là, j'ai fini une étude et je suis content d'écouter le docteur Pichenet parce que je vois que quand j'ai été urgent, ça remonte maintenant une vingtaine d'années, quand j'étais interne, mais je suis très content de voir que les choses ont largement évolué. Donc, ma posture à moi, c'est ma double casquette, c'est-à-dire à la fois généraliste, donc acteur de terrain, qui se pose des questions pratico-pratiques, et sociologue qui a les moyens un petit peu d'avoir une prise de distance pour comprendre un petit peu ça. Et ce qui m'intéresse, c'est un peu être l'angle de mes deux interventions, c'est comprendre en quoi c'est compliqué de prendre en charge, d'accompagner quelqu'un qui est en souffrance. C'est un petit peu ça l'idée. Et c'est pour ça que je pense qu'avant d'attaquer le cœur du problème, il est important de réfléchir à la manière dont on le regarde. Alors je vous ai mis un petit peu ce terme de savoir. Ça, moi, ça me fait penser un peu à mes études de médecine où j'avais des tonnes de choses à apprendre. Les étudiants en médecine, on apprend. Et puis, on a un peu l'illusion qu'une fois qu'on a appris les choses, on va piquer le savoir et ça sera simple. Or, c'est jamais simple. Et je pense souvent à l'infarctus. On compare, ben oui, il y a l'infarctus, il y a le savoir. Et effectivement, quand quelqu'un a un infarctus, on va déboucher, on met la coro, on n'a plus que le savoir, c'est simple. Puis moi, en tant que médecin généraliste, je dois savoir. Je dois aussi prendre le temps de comprendre. Parce que dans mon boulot de médecin généraliste, si je veux faire de la prévention de l'infarctus, eh ben, je dois avancer, je dois dire à quelqu'un qu'il faut changer de régime, arrêter de fumer, faire du sport. Et si j'ai envie de dire, il faut avoir une technique que je n'ai pas pour faire une coro, pour poser des stents, ça je ne l'ai pas, je ne la maîtrise pas. C'est, je dirais, d'une certaine manière simple, c'est une technique, une fois qu'on la maîtrise, c'est bien, on avance. Par contre, quand vous êtes face à de l'humain, parce que je pense que le suicide est un problème profondément humain, et bien là, il faut comprendre, s'interroger. Et c'est bien d'avoir des outils, c'est bien d'avoir donné de la science. Et si on ne maîtrise pas ce savoir, on n'avance pas. Mais face à quelqu'un, face à une médecine centrée sur la personne, où je dois travailler avec l'autre, construire une alliance thérapeutique, faire l'adressage, comme dit le docteur Pichenet, c'est bien, il faut les adresser, mais le problème, c'est qu'ils n'y vont pas. Donc, on va pouvoir s'approprier. Et donc, s'appuyer sur des outils, sur un savoir, ce qui me paraît essentiel, mais comprendre. Et finalement, il y a un médecin généraliste qui a créé un outil pour dépister un peu le suicide. Et je me suis aperçu que ce qui comptait, ce n'était pas tant l'outil, c'était que l'outil donnait confiance pour aller de l'avant. Parce que même en tant que soignant, on a peur, on se pose des questions. Est-ce que je ne vais pas provoquer? J'en parlerai. Et l'intérêt de l'outil, c'est qu'on va s'autoriser à se sentir compétent. Donc comprendre ce que je fais me paraît aussi important que savoir ce que je fais. Donc j'aurais voulu, alors je ne sais pas si ça va fonctionner, être un peu interactif, parce qu'il y a toute une série d'idées préconçues, donc on ne peut pas effectivement, dans le cadre d'un congrès, toutes les traiter, et c'est important d'y réfléchir, donc de réfléchir comment moi j'aborde, quelle est ma posture, de quelle manière j'aborde la question du suicide. Donc je pense que c'est plutôt, je vous l'ai montré tous, il y en a plusieurs, donc c'était pour vous inviter à la réflexion et l'initier, parce que vous voyez, on pourrait traiter, quand on fait des séances de prévention comme propose le professeur Terra, eh ben, on passe facilement 2-3 heures à travailler ces idées. Et c'est vraiment important qu'avant d'aborder, qu'avant de vouloir, j'ai envie de dire, avoir des bonnes pratiques, réfléchir à soi-même comment on se positionne. Alors, on en a un petit peu parlé, mais j'aurais voulu être un peu interactif et vous poser la question à votre avis. Et ça va faire un peu écho avec l'intervention précédente, à votre avis. Le suicide est-il le signe d'une maladie mentale? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut essayer d'être un peu interactif? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a des micros hein, qui circulent.
Mais qu'est-ce que c'est une maladie mentale?
C'est une très très bonne question. Et Monsieur Germain, quelle réponse, quelle définition vous donneriez à une maladie mentale alors? Et alors la salle, qu'est-ce que vous en pensez? Le suicide, le signe d'une maladie mentale ou pas? En sachant que la question, elle n'est pas, c'est pas, j'ai pas dit que c'est une maladie mentale, le signe d'une maladie mentale.
On aurait dû prévoir des petits boutons avec 8.
Oui, ça aurait été.
Si quelqu'un veut s'exprimer. Non?
Non, bon. C'est pas évident d'être interactif, mais je trouve que c'est plus intéressant de prendre le temps de réfléchir. Parce que. Oui, allez-y.
Ah. Pour une maladie mentale, pour les facteurs importants qui nous permettent d'évaluer. Et non, pour ça peut venir et on ne sait pas à quel moment. Et là, ce n'est plus une maladie mentale, c'est plutôt un état de soi où on n'est pas bien, où justement on approche du risque suicide, au suicide à l'acte en fait, ou pas.
Vous êtes originaire de Normandie ou... Non, non, oui et non.
Je trouve que vous avez bien défini les choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a derrière cette creusée. Et on a envie de dire, et c'est intéressant de dire oui et non, parce qu'effectivement, on a vu qu'il y avait des corrélations. Mais que si quelque part, on va trop loin et qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin, de dire, c'est pas assez de signes, c'est une maladie mentale, là, très clairement, c'est non. Mais que cette corrélation. Et le problème, et excusez-moi, monsieur Jamais, mais c'est quoi une corrélation? C'est sur ça qu'on peut réfléchir. Parce que là où la corrélation, c'est là où il y a un peu limite de l'épidémiologie, il faut un petit peu aller plus loin. Le risque, hein, je me rappelle très bien un collègue psychiatre qui m'avait dit, ben oui, c'est, il voyait une tentative de suicide, ah oui, il est dépressif. Et puis c'était carré, cadré, bon voilà, j'ai plus de questions, je suis allé plus loin. Il était dans la case, on était étiqueté, il est dépressif, il est schizophrène, est-ce que je vais m'interroger plus loin? Et on a beaucoup insisté sur le côté multifactoriel. Et le problème, c'est que quand on donne trop d'importance à la maladie mentale, et bien finalement, on a tendance à le mettre dans la case maladie mentale et on arrête de penser. Et il y a des questions qu'on ne pose pas, la question du sens, la question de la liberté, j'y reviendrai dans ma deuxième intervention, est-ce que c'est un choix, pas un choix, j'y reviendrai. Est-ce qu'on peut vouloir rationnellement mourir tout en ayant une maladie mentale? Est-ce qu'elle est légitime ou illégitime? Et puis, on a bien vu l'impact de la société. Donc finalement, on sait que c'est multifactoriel, on l'a tous en tête. Mais le risque, un petit peu, si on met trop en avant et on a tendance à identifier trop avec la maladie mentale, c'est qu'on étiquette, on rentre dans la case. Parce que comme le suicide nous interroge, nous trouble, et je reviendrai là-dessus, on a envie de réponses simples. Hein, aux États-Unis, on aime bien, on fait même suicide égale psychose maniaco-dépressif. C'est simple, c'est carré. C'est plus compliqué, on l'a vu, mais en même temps, si c'est une maladie mentale, c'est simple, on confie au psychiatre et puis le boulot est fait. Et si on est tous réunis ici, c'est que justement, ce n'est pas si simple que ça. Et donc, ça interroge le concept de corrélation. Et puis, autre chose, ça nous renvoie à une réflexion, dont je viendrai un peu dans ma deuxième intervention, sur quels sont les modèles explicatifs que moi, je vais me référer pour expliquer le suicide. Le modèle psychologique, on verra que la crise suicidaire, le modèle neurobiologique, la plage génétique, la plage des facteurs. Est-ce qu'on va plus me référer au modèle sociologique? Est-ce qu'on va se poser la question du sens car le modèle philosophique? Et puis quelque chose qu'on appelle le modèle communicationnel, l'appel au secours. Et on voit bien que finalement, il n'y a pas forcément un modèle, mais plusieurs modèles. Mais que de façon plus ou moins consciente, si on ne prend pas le temps d'y réfléchir, on va privilégier tel ou tel modèle. Et la question que je pose aux soignants, aux intervenants, aux bénévoles, à tous ceux qui seront confrontés, si on est dans un réseau de sentinelles, si je privilégie tel ou tel modèle, sans avoir plus le temps d'y réfléchir, ça va m'influencer comment, de façon inconsciente, ma pratique. D'où l'importance, à un moment donné, de s'y arrêter et d'y réfléchir. D'autant plus que, voilà, corrélation ne dit pas causalité. Et puis, c'est là, ça a été un peu tédi, mais ce qui est important de souligner, c'est que la très grande majorité des personnes souffrant de maladies mentales ne vont pas se suicider. Alors, je n'ai pas les chiffres sur le nombre de dépressifs qui vont se suicider, mais il reste très, très minime. Donc, qu'est-ce qui fait que certains dépressifs se suicident et d'autres ne se suicident pas? Donc, on voit bien qu'il y a autre chose. Et puis, le problème, c'est qu'on a mis dépression. Mais la dépression, c'est un peu, on pourrait poser une question que la maladie mentale, c'est quoi la dépression? Entre la dépression qu'on étiquette facilement dépression et la mélancolie, il y a un gap. Et là, c'est pareil, le mot dépression, on s'aperçoit que c'est un peu un arbre qui cache la forêt. Et puis, si on pose un pas plus loin dans la réflexion, est-ce que c'est la maladie mentale en tant que maladie mentale qui provoque le suicide ou est-ce que c'est la souffrance induite par la maladie mentale? Et c'est encore une autre question. Parce que, par exemple, si je me réfère aux schizophrènes, il y a beaucoup de schizophrènes qui se suicident, c'est les autres schizophrènes. Donc c'est au moment où ils prennent conscience que leur avenir est vraiment obturé qu'ils vont se suicider. Donc vous voyez que le lien, il n'est pas si simple que ça, et c'est le problème des corrélations, à l'impossibilité de s'adapter. Autre lien qu'on prévoit, la maladie mentale, elle l'exclut de la société. Et l'exclusion de la société liée à la maladie mentale peut aussi éventuellement être un facteur. Donc vous voyez bien que les liens ne sont pas si simples. Et puis, il y a aussi des biais méthodaux. Comme la 40 à 60% des suicides, tentatives de suicide sont liés à la dépression, on n'a pas tendance un petit peu à étiqueter un peu trop facilement dépression. Vous voyez, ça pose plein de questions. Donc, encore une fois, c'est clair, comme le docteur Pichenet l'a montré, il y a un lien. Mais la question que moi je pose à travers le questionnement, c'est a priori, c'est quelle place, comment on se positionne et quelle place on accorde par rapport aux autres facteurs. Et puis, si encore une fois, de façon inconsciente, on se réfère plus au modèle de la maladie mentale, eh ben, on risque, comme je l'ai dit, de réduire. Ben, voilà, c'est simple, il y a la solution. Il est schizophrène, il est alcoolique, il est dépressif, voilà. On risque de stigmatiser et de faire du suicidant quelqu'un de radicalement autre. C'est la maladie mentale, ça ne concerne pas tous les autres. Or, justement, le suicide, moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, on peut tous, alors, sans forcément aller jusqu'au suicide, l'idée suicidaire, je pense, on l'a bien dit, elle est beaucoup plus répandue qu'on pourrait le penser. Donc, est-ce que celui qui se suicide est radicalement autre via la maladie mentale, on l'a mis en une case, ou alors est-ce qu'il peut toucher tout le monde? Et puis, il y a le risque de la médicalisation. Est-ce que finalement, et c'est bien pour ça qu'on est réunis ici, est-ce que, ben voilà, si la maladie mentale, c'est très simple, je confie mon patient qui devient un patient, la personne qui devient un patient au psychiatre, il fait le boulot, et là, on sépare de façon très claire le professionnel des autres. Or, si on est ici, c'est que je pense que la question du suicide est un travail d'équipe. On risque aussi de surprotocoliser, c'est-à-dire que les protocoles sont importants, ça donne les outils pour avancer, mais c'est pareil, tac, 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 j'agis, j'avance. Autre risque, si on est trop sur le modèle de maladie mentale, on se déresponsabilise. Le suicide, ça nous dit quelque chose, ça nous interpelle. Qu'est-ce qui se passe dans les familles? C'est pareil, si c'est la maladie mentale, ben, on se pose plus le problème dans la famille. Et pareil, vis-à-vis de la société, on a bien vu, suicide des prisons, suicide des travail, si quelque part c'est la maladie mentale, c'est simple, c'est casé, on confie ça au psychiatre. Et puis, il y a un problème, on risque de clivage entre ce qu'on pourrait appeler les vrais suicides, qui seraient des suicides aboutis, et les tentatives de suicide qui seraient pas vraiment vrais, parce que c'est pas vraiment sérieux, comme s'il y aurait de vrai que s'il y a la maladie mentale derrière, et quand il n'y a pas de maladie mentale, ça serait pas vrai. Or, on sait maintenant, alors longtemps on a séparé, on a clivé suicide, tentative de suicide, maintenant, on sait qu'il y a un continuum entre les uns et les autres. Donc, ça nous complexifie un petit peu le schéma, mais je pense qu'on doit prendre le temps de s'interroger au rapport, au lien entre suicide et maladie mentale. Alors maintenant, une autre idée préconçue. Alors pareil, parler du suicide avec une personne qui va mal encourage le passage à l'acte. À votre avis? Oui, non, oui. J'ai un non là-bas, non là-bas. Tout le monde est d'accord? Ça dépend.
Encore un Normand.
Alors, Alors c'est vrai, quand quelqu'un nous dit « j'en peux plus, c'est lourd, j'ai plus la force, je suis épuisé », on a envie de lui dire, et je pense que ça se passe encore, « tu vas pas dire ça, hein, pense à tes enfants, ça va se passer, hein, c'est un coup de cafard, hein, ça va aller mieux demain, les vacances arrivent, hein, tu vas attendre de te reposer, le travail est dur ». C'est la vie difficile pour tout le monde, hein, peut-être pour moi aussi. Il faut prendre sur soi. On entend souvent sur les dépressifs. Hein, il n'y a qu'à faire un petit effort de volonté. Hein, finalement, la vie est dure pour tout le monde. Et puis, il y a aussi le sentiment, quand quelqu'un nous dit ce pensée-là, qu'est-ce que j'ai fait ? Il faut que tu dises ça. Hein. Et puis, quand quelqu'un évoque, hein, et là, vous avez vu, on parle d'épuisé. Ce qui est compliqué aussi dans la pensée de suicide, c'est que le mot suicide n'est pas forcément prononcé. Moi, je vois bien dans mon cabinet de médecine générale, j'ai rarement des gens qui disent dans mon cabinet « je veux mourir ». Il faut que moi, j'ai une démarche proactive pour chercher. Si je ne cherche pas, et même quand je demande, je cherche des antécédents, jamais un seul patient m'a dit « j'ai fait une tentative de suicide avant ». Il faut que toujours que je pose la question. Mais si c'est compliqué, c'est que quand quelqu'un est... Quand je suis soignant, je le vois bien. Quand je commence à sentir que quelqu'un a des idées noires, des idées suicidaires, bon, j'ai un petit pincement au cœur parce que je sais que mon quart d'heure, ça ne sera pas un quart d'heure, ça sera une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc c'est pour ça que moi, je veux qu'on ait le temps de réfléchir à nos pratiques de soignant, qu'est-ce que ça implique. Et je crois qu'il faut qu'on ait conscience que, quelqu'un qui évoque des idées, ça fait peur. Ça fait peur parce que qu'est-ce que je vais faire de ce qui va me déposer? Comment je vais l'entendre? Est-ce que je ne vais pas me responsabiliser? Est-ce que l'autre me confie quelque chose? Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais être assez fort pour porter le poids de ce que l'autre me confie? Est-ce que je ne vais pas être maladroit dans la façon dont je vais réagir? Est-ce que mes mots ne vont pas être maladroits? Est-ce que je ne vais pas aggraver son mal-être? Parce que finalement, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un psychologue. Est-ce que je ne vais pas être maladroit dans la façon dont je vais faire? J'ai peur de ne pas savoir bien faire, donc peur de mes limites, de mon impuissance. Et puis on l'a dit, peur de faire manipuler, le chantage, quelqu'un qui dit X fois, l'appel au secours, ras-le-bol, il y a quelqu'un qui va me répéter X fois. Donc finalement, ce n'est pas si simple que ça. Et prendre le temps de réfléchir à concrètement ce que ça évoque chez nous, ça a du sens. Parce qu'en sociologie, j'aime bien un peu les savoirs d'action, le côté très, très, très pratico-pratique. Finalement, réfléchir à ces a priori, ça nous permet aussi de réfléchir aux mots que je vais utiliser avec l'autre personne. Parce que c'est ça aussi la prévention au quotidien. C'est dire, c'est bien, je suis sentinelle, mais concrètement, quand quelqu'un me parle de son désir de mourir, je vais utiliser quel mot, quelle position je vais avoir. Et donc, ne pas être dans l'injonction de dire, il faut faire, je dois faire, mais de réfléchir à comment je fais. Ça, c'est très important. D'ailleurs, vous savez les mots qu'il faut utiliser pour poser à la personne la question. Vous utiliserez quel mot pour poser à la question si quelqu'un évoque, parce que le mot suicide, il ne prononce pas. Moi, enfin, dans mon expérience à moi, alors peut-être qu'en psychiatrie, peut-être que le mot est un peu plus prononcé, mais en médecine générale, il n'est jamais prononcé. Quand vous poseriez la question, hein, quelqu'un qui évoque son épuisement, ça, comment vous poseriez la question? J'ai fait des jeux de rôle avec des médecins généralistes. On était dans des jeux de rôle. Et j'ai vu des généralistes tourner 20 minutes autour du pot. Donc, prendre le temps de se poser comment je poserais la question me paraît essentiel. Quelqu'un a une idée? Comment vous feriez?
Je suis au bout du rouleau. Vous parliez de tourner.
Oui. Mais vous, en tant que... Si vous avez quelqu'un qui est au bout du rouleau, vous diriez quoi? Ouais. Ce qui peut être une bonne idée. D'autres idées? Oui. Ça peut être une bonne idée. Mais est-ce que vous prononceriez le mot suicide ou pas? Parce que tout ça, on tourne un peu autour du pot, là. Le mot suicide, vous ne le prononcez pas dans les deux cas. Hein. J'ai pas entendu. Allez-y. Oui. Ouais. Mais vous voyez, c'est pas facile. Parce qu'on a un petit peu peur d'induire. On a un peu ce fantasme, cette superstition. Je mets le mot suicide, il n'y pense pas, peut-être que je vais... Alors, on sait, l'expérience clinique nous montre qu'on n'a pas le pouvoir, on n'est pas des magiciens. Ce n'est pas parce qu'on prononce le mot suicide qu'on va donner à la personne l'idée de se suicider. Ça, le savoir clinique nous le montre. Et ça, c'est important d'avoir le savoir qui nous montre ça. Donc là, on peut se rassurer. Mais je crois que, et ça ce que j'ai appris, c'est que chacun doit trouver sa propre méthode. Il n'y a pas une méthode où chacun, parce que le mot suicide nous fait peur, c'est compliqué de le prononcer, et on ne peut pas le prononcer aussi facilement que ça. Vous voyez très bien qu'on se met devant, ce n'est pas facile de demander directement à quelqu'un, voilà. Et moi je sais que je commence toujours, c'est ma technique, par les idées noires. Je ne suis pas capable d'aller directement parce que ça me semble violent. C'est ma technique à moi, elle ne vaut que pour moi. Je crois que chacun doit avoir sa propre technique. Mais je commence toujours par les idées noires, mais je sais qu'à un moment donné, je dis, on est bien d'accord, c'est de suicide qu'on parle, pour pas qu'il y ait de quiproquo. Donc, je dis qu'il faut prononcer. Par contre, je pense qu'il y a un mot qu'il ne faut pas prononcer, c'est, est-ce que vous pensez à faire une bêtise ? Hein ? On est bien d'accord, je crois que vous êtes tous conscients. Donc, vous voyez que le temps de prononcer au mot, prendre le temps de réfléchir, ne pas être juste dans l'idée, il faut que je puisse parler, mais prendre le temps de réfléchir à comment. Et puis, effectivement, on sait que quelqu'un qui a des idées noires, qui pense au suicide, si on lui ouvre la porte, au contraire, on ne provoque pas l'idée, mais on soulage, parce qu'il trouve enfin un interlocuteur qui est capable de l'écouter et de l'entendre. Et il va pouvoir commencer à se dévoiler. Mais la question est de savoir, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais ? Je ne reste pas seul avec, et surtout, je ne pense pas, je n'imagine pas que j'ai forcément la solution pour l'autre. Donc l'attitude d'écoute, c'est une attitude humble. J'écoute, j'ouvre la porte, je ne me surresponsabilise pas, je ne prends pas tout le poids sur mes épaules. Alors après, je ne sais pas combien de temps il me reste.
Il reste 6 minutes.
On peut aller un peu plus vite. Alors, parce qu'on pourrait rester des heures, il y en a plusieurs, donc ceux qui parlent suicidé ne le font pas. Alors ça, on le reverra, je pense que le sortira dira bien que le suicide est un processus. Souvent, on pense au suicide, au passage à l'acte. Le problème, c'est que maintenant, on a évolué dans le savoir et on considère que c'est un cheminement lent et complexe. Ce n'est que la partie émergée d'une souffrance qui date depuis un long moment. Et on l'a bien vu avant, le facteur prédictif le plus important est l'antécédent tentative de suicide. Et puis, deux chiffres qui me paraissent importants, 80% des personnes ont consulté un médecin, que ce soit généraliste ou psychiatre, avant de faire l'acte suicidaire. Donc ça veut dire qu'il est venu chercher quelque chose. Il n'a pas forcément parlé de son suicide, mais il est venu. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça n'a pas émergé ? J'en sais rien. Et puis, 80% des personnes ont parlé. Et là, on dit qu'elles étaient épuisées. Effectivement, comment on réagit? Donc, effectivement, quelqu'un qui parle suicidé, eh ben, peut le faire. Certains le font, d'autres ne le font pas. Mais surtout, nous n'en savons rien tant que nous n'avons pas pris le temps de poser la question. Donc, on l'a dit, hein, parler de mourir constitue toujours un système d'alarme. Et là, on est dans ce que j'appelle une logique en tension. Parce qu'il faut à la fois prendre au sérieux. Mais il ne faut pas dramatiser, parce que si quelque part, dès qu'on parle d'une idée de mort, surtout sur un adolescent, si quelque part on appelle la cavalerie, là aussi on risque d'être délétère. Donc il faut savoir à la fois prendre au sérieux, ne jamais banaliser, comme ça a été dit, je pense que c'est vraiment essentiel, toute idée de mort, même si quelqu'un, à la limite, quelqu'un va prendre, je ne sais pas moi, 10 comprimés de n'importe quoi, ou 5-6 comprimés. Moi, en tant que soignant, j'ai pensé que c'est rien, mais ce que j'oublie, il ne faut pas penser à la place de l'autre, que... lui, il ne sait pas forcément qu'avec ses 6 ou 5 comprimés, il ne va pas mourir. Ce qui compte, c'est de comprendre son intention. Donc, ne jamais banaliser, ne jamais dramatiser, toujours prendre au sérieux, ne pas juger, prendre du recul, et sur quoi j'insiste, parce que je vois comment on est pris face à quelqu'un qui nous parle, son idée de mourir, prendre le compte, tenir ses émotions, se protéger aussi. Et donc, savoir gérer cette logique en tension entre deux valeurs opposées, pas dramatiser et pas banaliser. Alors, seules les personnes isolées suicident. On est bien d'accord. Et là, en tant que sociologue, ça me fait toujours sourire parce que c'est ce que j'appelle la mythification du lien social. Des fois, j'entends souvent, ben, c'est relativement simple, on va mettre du lien social. Alors, c'est pareil, lien social, c'est comme la dit mental, je ne sais pas trop ce que c'est que le lien social. Mais encore une fois, on s'aperçoit qu'on veut toujours des réponses simples, on veut toujours, hein, là, on met du lien social, c'est facile, on en remet. Et puis imaginez, c'est Ansor qui est un peintre belge qui fait « J'aurais dû amener la peinture, vous la montrer ». On voit bien la solitude dans la foule. Parce que ce qui compte, ce n'est pas tant la quantité du lien social que sa qualité. Parce que si finalement c'était que du lien social, ça serait très simple. On ferait des études, on mesurerait le nombre de liens qu'une personne a. Et puis c'est simple, les personnes qui ont peu de liens, on mettrait beaucoup de liens, elles seraient à risque suicidaire. Les personnes qui auraient beaucoup de liens, eh ben, elles ne seraient pas à risque suicidaire. Or, ben, on peut avoir beaucoup de liens et que ces liens soient pauvres de façon affective et que la personne soit totalement isolée. Surtout que ce qui est spécifique et difficile, c'est qu'il y a beaucoup de suicidaires qui sont capables de porter un masque. on ne voit pas qu'ils souffrent. Moi, j'en ai vu dans mes consultations. C'est très dur d'aller chercher derrière. Ils souffrent, mais ils ne le montrent pas. Ils ont des liens. Et on peut avoir très peu de liens, mais que ce soit des liens de qualité. Donc, une personne entourée n'est pas à l'abri du suicide. Et ça, c'est important, parce que sinon, encore une fois, ça nous donne des schémas trop simples dans notre tête. On cadre, il y a des liens, donc voilà, il est entouré. Et puis, j'étais un peu trop vite. Ne pas oublier aussi que l'entourage peut être nocif. Et peut-être que c'est une déformation professionnelle, mais derrière lien, je vois un peu menottes. Donc on voit encore une fois que le lien, il peut être positif, il peut être nocif, mais qu'en tout cas, il ne suffit pas de se dire on augmente le lien social pour mettre à l'abri quelqu'un du suicide. Alors, on peut toujours empêcher un suicide ? Ah, on est bien d'accord. Hein, et ça, je crois que c'est un élément essentiel de connaître. Hein, j'avais eu un professeur qui m'avait dit « Être médecin, c'est savoir faire le deuil de sa toute-puissance. » Et dans la prévention du suicide, c'est encore plus important. Il faut vraiment qu'on se protège des émotions. On doit tout faire pour arriver à prévenir le suicide, mais on a certaines limites.
Je crois que vous arrivez au terme du temps imparti. Oui.
Si alors, juste peut-être, c'est ma dernière. Alors, pour aider une personne suicidaire, il est indispensable d'être professionnel de l'aide. Non ? On est bien d'accord. Alors, ça serait tellement simple, effectivement, s'il existait des experts qui pouvaient prévenir. On est bien d'accord. Mais au-delà de tout ça, c'est poser la question, si quelque part on ne confie pas la prévention du suicide à un expert, ça ne veut pas dire qu'on doit faire la prévention du suicide, on doit l'aborder de façon n'importe comment. Et on doit se poser un certain nombre de questions. S'interroger sur ce que représente le suicide pour soi, donc avoir le temps de s'interroger, parce qu'on n'aborde pas la question du suicide de façon neutre, puisque c'est un problème humain. Et si quelque part, on ne s'interroge pas sur ce que représente le suicide pour soi, ça risque de poser des problèmes. On l'a vu réfléchir aux mots qu'on utilise, ne pas se focaliser uniquement sur l'événement déclenchant, mais sur la personne, sur son histoire. Apprendre à écouter sans vouloir trouver une solution pour l'autre. Connaître ses capacités, jusqu'où je suis capable d'aider. Et la question essentielle, c'est savoir passer le relais. Et j'ai toujours un petit peu peur quand on fait de la prévention, que la personne, elle est prévenue. Maintenant, on sait, hein, tu as été à une formation, tu sais faire maintenant. Et qu'une prévention, si quelque part, elle n'est pas subie d'autres préventions de construction d'un relais, à mon avis, ça peut poser problème. Et surtout, savoir solliciter de l'aide. Qui pourrait m'aider moi si c'est nécessaire. Voilà, je termine. Donc, on l'a bien vu, j'insiste pas sur le côté multifactoriel du suicide, l'interdépendance. Et voilà, moi, je trouve que j'aime bien que la prévention du suicide ressemble un petit peu à ça. Je vous remercie.
Merci, merci beaucoup.